Les priorités santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Parler de santé mentale aujourd'hui en France ne doit pas se limiter à aborder l'impact de la pandémie du Covid sur le moral des populations, ni même à traiter de la question pourtant cruciale de la crise de la psychiatrie dans un pays comme la France. Car malgré ces tensions tout à fait exceptionnelles, le travail du quotidien se poursuit. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous avons choisi de parler de deux questions plus rarement évoquées. Des questions pourtant essentielles dans la mesure où elles ouvrent des portes, éclairent, permettent d'envisager une amélioration réelle pour les patients. Tout d'abord, la notion de rétablissement pour celles et ceux qui, au fil de leur parcours, se soignent, cohabitent parfois avec la maladie, comprennent, retrouvent le goût de la vie, réussissent à en cerner de nouveaux contours, redécouvrir des possibilités enfouies ou ignorées. Et sur la base de ce rétablissement, fort de ces parcours, mettre ce cheminement au service des autres patients, écoute, partage, compréhension, légitimée par la force de l'expérience, consolidée par une formation, il s'agit de la paire aidance en santé mentale, devenir ambassadeur du vécu, passer de patient à paire aidant, et évoquer également le rôle joué par l'entourage, les aidants, acteurs essentiels de la prise en charge du quotidien. Des approches du soin qui creusent leur sillon, des pratiques qui évoluent, une inclusion au service de l'amélioration de la santé des patients en santé mentale, sous l'œil plus ou moins bienveillant des psychiatres. Et le titre de l'ouvrage qui a inspiré le thème de cette émission reflète cette approche basée sur la compréhension, sur l'amélioration. Il s'intitule « Les voies du rétablissement », voies V-O-I-X au pluriel. Et la vôtre, Sabrina Palumbo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez réuni ces témoignages dans ce petit livre, je dirais, lumineux, publié chez Frison Roche. Sabrina Palumbo, vous êtes père aidante professionnelle, secouriste en santé mentale, coach en libéral aussi et marraine des associations Solidarité Anorexie Boulimie. C'est d'ailleurs à vous que j'ai emprunté l'expression ambassadeur du vécu. Petit livre qui éclaire par la sincérité de celles et ceux qui s'y expriment, du recul, des témoignages pétris d'expériences de vie. Vous avez préfacé ce livre, professeur Christophe Lançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'un service de psychiatrie et d'addictologie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et puis, une autre de ces voix que nous entendrons au cours de l'émission, celle de Cécile Glaser, infirmière en psychiatrie, père aidante, spécialisée dans la prise en charge précoce des patients souffrant de schizophrénie.
Priorité santé sur RFI.
Sabrina Palumbo, alors avant d'aborder ce qui nous occupe depuis bientôt 8 ans, ce qui vous occupe depuis 8 ans, la paire aidance en santé mentale, après donc un long parcours en psychiatrie pour la prise en charge de troubles du comportement alimentaire. D'abord, si vous le voulez bien, on va revenir sur ce titre, ce terme, cette notion de rétablissement en santé mentale. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi insister sur le terme de rétablissement?
Alors, le rétablissement en santé mentale est né depuis de longues années maintenant. Il arrive en France un peu plus récemment. On parle de processus, en fait. C'est un concept émergent dans le système psychiatrique depuis 2012, on va dire, et qui s'aime un peu progressivement dans les établissements médico-sociaux, celui du social ou de l'insertion. En fait, il s'agit d'un processus individuel, mais aussi collectif, au long cours. Et au cours de ce processus, on insiste beaucoup sur la notion d'espoir. C'est un processus qui consiste en l'amélioration de la qualité de vie, l'augmentation de son pouvoir d'agir. Alors, dans le jargon de la santé mentale, on va parler d'empowerment, qui permet de surmonter un peu les conséquences du trouble, des problématiques de santé et de leurs répercussions sociales, psychosociales. Donc, généralement, il est abordé par la valorisation des compétences, des envies, des désirs, des besoins, des aspirations.
Ça veut dire, par exemple, qu'on n'est pas obsédé par le résultat et surtout pas que tout redevienne comme avant.
Exactement. En fait, il y a beaucoup de définitions et des fois, j'ai entendu dire, par exemple, c'est un retour en avant. J'ai trouvé ça assez parlant. C'est pas, on cherche pas le retour comme la situation avant que le trouble ne se déclare. C'est pas une fin en soi. Par contre, c'est viser en tout cas un mieux-être, à faire avec les symptômes quand il y en a ou surmonter des symptômes pour qu'ils n'empêchent plus en tout cas une vie qui soit suffisamment épanouissante et dotée de sens.
Beaucoup de définitions. D'ailleurs, il y a une autre définition qui a retenu mon attention. C'est Frédéric que vous citez dans le livre. Il dit, lui, c'est devenir comme après. Ça veut dire qu'il y a des possibles, ça veut dire qu'il y a l'expérience des troubles. On n'efface pas, on ne nie pas les étapes vers le rétablissement, mais on ouvre une porte.
Exactement. Et puis on s'enrichit aussi au cours de ce processus. On acquiert tout un tas de compétences, de savoir dit savoir expérientiel, qu'on peut ensuite transformer en connaissances par le biais notamment de formation et constituer un peu une sorte de savoir hybride, mais on en ressort enrichi. Moi, comme vous l'avez évoqué, j'ai un passé de 15 années dans les troubles alimentaires, de type anorexie boulimie. Je dis presque... Oui, je peux dire merci aujourd'hui à la maladie, puisqu'on s'en sort aussi avec une grande connaissance de soi, de ses forces, mais aussi de ses fragilités. Donc, quelque part, ce processus nous fait grandir.
Et les médecins, professeur Christophe Lançon, comment est-ce qu'ils définissent, comment est-ce qu'ils approchent cette notion de rétablissement ?
Alors, le rétablissement, c'est une notion qui est individuelle, qui est celle des patients. Nous, en tant que médecins, on doit aider par nos soins au rétablissement, prodiguer des soins qui permettent aux gens de se rétablir.
Est-ce que c'est une terminologie, par exemple, qu'on retrouve dans le milieu hospitalier, en service de psychiatrie ?
Ça vient de plus en plus, ça vient de plus en plus.
Est-ce que ça veut dire qu'on n'envisage pas, de toute façon c'est rare en psychiatrie, l'évolution en termes de guérison, mais bien on s'éloigne de tout ce qui est démarche normative ?
Ah là là, vous soulevez une question très importante. La première question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut guérir de la maladie mentale ? La réponse est oui.
Ça dépend des pathologies, ça dépend des individus ?
C'est comme tout en médecine, ça dépend des individus, du trouble, du traitement, de la qualité des traitements. Après, le rétablissement, c'est une notion qui est une notion très importante pour les usagers, qui jusqu'à présent étaient enfermés dans une idée vis-à-vis des soins psychiatriques que globalement c'était un enfer incurable et qu'on pouvait pas s'en sortir, si vous voulez. Donc du côté des usagers et des patients, cette notion du rétablissement, elle est très importante parce que elle implique l'espoir, la possibilité de mener une vie satisfaisante, quand bien même on est souffert d'un trouble ou de troubles qu'on appelle troubles psychiques.
Vous dites du côté des usagers, mais quand on s'intéresse à certaines maladies psychiatriques, je pense en particulier à la schizophrénie, même y compris pour des parcours de troubles alimentaires, on entend parler de chronicité. On dit qu'en fait, schizophrène un jour, schizophrène toujours, avec évidemment des crises plus ou moins aiguës, plus ou moins fréquentes, la maladie plus ou moins endormie. Mais ce qu'on entend aussi souvent, c'est que la maladie, elle reste là.
Alors c'est ce qu'on entend, effectivement c'est ce qui fait beaucoup de dégâts et beaucoup souffrir les gens, mais ce n'est pas inscrit, ça c'est une chose, c'est une donnée scientifique forte, il n'est pas inscrit dans les troubles psychiatriques d'être soit chronique, soit de ne pas guérir, ce n'est pas inscrit dans le génie évolutif de ces troubles. Et c'est quelque chose qui pendant longtemps a pas été mis en lumière, a été un peu, ignoré. Mais on peut guérir des troubles psychiques, même de certains troubles schizophréniques. Ça peut sembler comme ça un peu provocateur, mais il y a des données très puissantes qui montrent ça. Et du côté des usagers et des aidants, l'espoir de se rétablir, de mener une vie normale, la synergie de traitement qui aide au rétablissement et l'espoir et les actions des aidants et des usagers peuvent changer la destinée des gens qui ont été longtemps affublés de chronicité, des troubles.
Et c'est votre cas, Sabrina Palumbo. Justement, sur la base de ce rétablissement, vous êtes devenue père aidante. Petite définition peut-être pour commencer.
Oui, la pérédance, en fait, vous avez employé l'expression ambassadeur du vécu. Mmh. C'est des personnes qui vont se servir de leur savoir expérientiel, de leur vécu, comme un outil dans leur pratique professionnelle, même si on apporte beaucoup d'autres choses et que la pérédance ne se limite pas au témoignage, par exemple, comme on peut se l'imaginer parfois. Il y a une mission de témoignage et tout ça, mais on apporte beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, on acquiert au cours de son parcours, que ce soit parcours dans la maladie ou parcours avec les soins, ou malgré les soins, j'ai envie de dire parfois, parce que ça peut être aussi des expériences des fois compliquées. Mmh. On acquiert tout un ensemble de savoirs et de savoirs qui sont transverses en fait aux différents troubles psy et qui peuvent aider voilà, dans des accompagnements individuels ou collectifs.
Justement, du côté de la configuration de cette intervention, Sabrina Palumbo, ça se passe comment? En groupe, face à face, des entretiens particuliers, dans un cadre de soins ou en ville? Tout est ouvert?
Alors, ça dépend. Alors, pour revenir sur moi, j'ai commencé par de la pérédance bénévole en fondant une association. Sur le chemin du rétablissement, j'ai créé une structure pour venir en aide aux personnes confrontées directement ou indirectement par les troubles alimentaires. Mmh. Depuis, comme vous l'avez dit, je suis devenue marraine d'association. Je me suis professionnalisée petit à petit. Aujourd'hui, j'interviens dans un dispositif ACT, donc d'appartement coordonné thérapeutique, où là, on intervient en binôme. Les professionnels, c'est une équipe médico-sociale composée d'un psychiatre, d'un psychologue, d'infirmières, d'assistantes en économie sociale et familiale, et j'en oublie. Il y a deux médiateurs. On intervient au binôme, en principe, dans le logement, puisque c'est un dispositif qui a été créé sur le principe du housing first, qui est né aux États-Unis, le logement d'abord. Donc on intervient dans le logement ou dans des espaces autres à l'extérieur. Donc c'est souvent en individuel, mais il y a aussi des actions menées collectives. Après, la pérédance aujourd'hui, c'est encore relativement nouveau en France, donc c'est plus une fonction qu'un métier. Mmh. Elle reste assez à définir. On est en train, d'ailleurs, il y a des échanges pour créer une fiche de poste qui serait un petit peu type, qui serait peut-être même en double partie, avec une partie un peu globale pour tout le monde et une partie plus singulière en fonction de la personne qui postule. Donc le métier reste encore à créer. Moi, j'ai travaillé sur un projet de loi pour la création d'un ordre des pères aidants qui permettrait peut-être de se structurer un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre métier. Mais en tout cas, il y a beaucoup, la pères aidants est plurielle et s'exprime de façon plurielle en fonction de si on travaille en intra ou pas. On va pouvoir par exemple mener des entretiens individuels, c'est pas le cas pour tout le monde, voilà, il y a beaucoup de formes possibles et il n'y a pas une fiche de poste type et des missions type en fait.
Alors, une expérience au service des autres, hein, accepter la différence, ce regard c'est essentiel. Il y a aussi le rôle de l'entourage, comme le soulignent toutes les voix de cet ouvrage, et une petite illustration par le biais du cinéma, court extrait du film de l'américain David O. Russell, Happiness Therapy. Retour chez ses parents après une hospitalisation d'un prof atteint de troubles bipolaires, Robert De Niro, Bradley Cooper, mais c'est en version française, on est sur RFI. Et comme on n'a pas l'image, hein, Bradley Cooper, il faut le dire, est vêtu d'un sac poubelle, maladresse d'un père aimant qui veut aider son fils.
Sois gentil, c'est jour de Mac, beignets au crabe et petits fours maison.
Ouais, sois gentil, papa, allons, elle fait des beignets au crabe et des petits fours maison. Youpi, allez!
Pourquoi t'es tout excité comme ça?
Oui, t'as l'air content.
Je me sens bien. Non, t'es tout pop, 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 pop.
C'est pas une bonne chose?
Non, t'es tout pop, 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 pop. Je sais pas à quoi c'est dû. T'es sûr que tu prends la bonne dose de médicaments, hein, t'es sûr?
Si je prends la bonne dose? Mais bien sûr, enfin.
D'accord. T'en aurais pas pris un petit peu trop par hasard,
hein? Ah non, je me serais déjà écroulé par terre si c'était le cas.
Extrait de Moderne Thérapie, cinéma pour lutter contre la stigmatisation. Pour bien comprendre, professeur Lançon, faire cette différence entre aidant et père aidant, pour expliquer aux auditeurs.
Alors, l'aidant, c'est les personnes désignées par l'usager ou le patient qui lui viennent en aide dans son quotidien de la maladie et des troubles qu'il présente. Et père aidant, c'est une fonction qui aide à se rétablir. Ça se chevauche parfois, mais c'est pas toujours le cas d'ailleurs. On sait, alors ça c'est une donnée qui est très importante, qu'il faut apporter un soutien, alors on pourra discuter quelle forme de soutien, un soutien très important à l'entourage, donc les aidants si vous voulez, des personnes, parce que le pronostic, une partie de l'évolution des troubles est liée à l'aide qu'on va apporter à l'entourage.
Parce que le soin, il est loin de s'arrêter aux portes de l'hôpital. Sabrina Palumbo, on parle beaucoup de l'expérience personnelle, forcément, dans ce type de parcours. Est-ce que pour autant, un père aidant en santé mentale doit intervenir auprès de patients concernés par les mêmes troubles que les siens ?
Non, pas forcément. Alors c'est vrai que dans la pérédance, aujourd'hui, il y a différentes formations qui existent et on peut parler des patients experts, des patients partenaires, des patients ressources, des pérédants, des médiateurs santé-pères. Le patient expert va plutôt intervenir auprès de patients qui souffrent de la même pathologie. Mais en tout cas, c'est pas du tout une obligation. Moi, je suis médiatrice santé-père et j'interviens auprès de personnes schizophrènes, bipolaires. Je rencontre parfois dans mes accompagnements une personne qui va avoir aussi des troubles alimentaires, mais c'est pas une donnée systématique. Comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur des savoirs qui sont transverses. Voilà, la gestion des médicaments, le rapport aux soins.
Aujourd'hui, vous avez des années derrière vous d'expérience, Sabrina Palumbo, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que parfois vous avez eu un petit peu peur peut-être de trop vous impliquer personnellement, faire référence à son propre cheminement et puis même peut-être même s'oublier alors que l'on n'est pas à l'abri de toutes les fragilités ?
Alors c'est vrai, comme je vous l'ai dit, sur le chemin du rétablissement, j'ai créé une association. J'étais pas complètement rétablie des troubles à ce moment-là. J'ai mis en place des groupes de parole, j'ai fait beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du grand public, des rencontres, des débats avec des professionnels ou pas. Le fait d'aider m'a personnellement aidée. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais très très impliquée. C'est-à-dire, je m'occupais de l'association H24. Je pouvais répondre à des messages, des sollicitations, même la nuit, et j'ai eu tendance à m'oublier. Ça a fait partie de mon chemin. Aujourd'hui, évidemment, avec l'expérience et un peu plus de recul, je sais que on ne peut pas aider tout le monde et tout le temps. C'est important de savoir se protéger aussi à certains moments, savoir que l'aide qu'on apporte, il y a beaucoup d'entraide sur les réseaux sociaux qui peuvent être très chronophages. Il faut savoir aussi prendre un minimum de distance par rapport à ça. On ne peut pas répondre à tout et surtout pas aux situations d'urgence, évidemment. Mais donc aujourd'hui, non, je prends le temps et c'est très, très important de s'occuper de soi déjà avant d'aider les autres, évidemment. Mais ça peut être un des pièges de vouloir effectivement vouloir aider à tout prix. Et on n'est pas des super-héros et on n'est pas... on n'est pas des modèles non plus, on a aussi les fragilités qu'on peut garder, et il faut avoir tout ça en tête.
Savoir poser des limites. Hein. Sabrina Palumbo, professeur Lançon, on va se retrouver dans quelques minutes. Question d'auditeur, nouveau témoignage après Eddie Depreto avec Freaks.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Galaisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, c'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? plus intime et balafre. Contre les casse toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir. Les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, freaks, freaks.
Priorité santé sur RFI, nous sommes toujours en ligne avec nos deux invités, Sabrina Palumbo, qui a signé, réuni les témoignages regroupés au sein du livre Les voies du rétablissement, la médiation de la paix et danse, publié chez Frison Roche. Ouvrage que vous avez préfacé, professeur Christophe Lançon, chef d'un service de psychiatrie à Marseille. Professeur Lançon, dans ce livre, à plusieurs reprises, hein, certains témoins père aidant et donc rétablis ne sont pas tendres avec l'institution psychiatrique. Des critiques d'ailleurs fondées sur leur expérience quand ils racontent certains moments, certains internements. Comment est-ce que vous percevez cela ?
Ah ben moi, personnellement, je partage leur point de vue totalement. Je pense que le mouvement des pères aidants, le mouvement du rétablissement, vient poser des questions très importantes sur la façon de faire les soins et les relations entre les usagers. Alors leur famille, parce que là on n'a pas trop parlé des familles, mais je crois que c'est un élément très important, et le système de soins. Non, je partage cette remise en cause et cette critique qui me semble tout à fait justifiée.
C'est-à-dire des moments où on a un petit peu l'impression, au motif que l'on est patient, que l'on n'est plus vraiment un individu, que la famille est exclue, et puis que tout ce qui pourrait parfois nous aider à nous remettre d'aplomb à la sortie est mis entre parenthèses.
Tout à fait. C'est une analyse parfaitement juste. C'est une des grandes critiques qu'on peut faire aux soins psychiatriques, hein, qui doit imaginer des façons plus modernes et actives d'aide aux familles et aux patients dans quelque chose qui est plus proche de la vraie vie, si vous voulez.
C'est essentiel. L'essentiel de la vie se passe en dehors de l'hôpital. Il faut reprendre pied après. Et des fois, on se retrouve complètement démuni. Mais attention, hein, Sabrina Palumbo, il ne s'agit pas pour autant d'une dénonciation du travail des psychiatres. Hein. Tous les témoignages, ou presque, dans ces témoignages, il est fait référence au traitement, au suivi, à l'approche du soignant et au processus thérapeutique.
Oui, alors je dis parfois, alors le pourcentage est peut-être faux, mais des fois je me surprends à dire que les soins et les traitements, c'est 10% ou mettons 20% du rétablissement. C'est ça, c'est un élément, c'est un outil, mais le rétablissement, c'est beaucoup d'autres choses. Et vous avez raison de souligner que le rétablissement se fait aussi en dehors, c'est-à-dire dans la vraie vie, dans la vie citoyenne. On est des individus, des femmes, des hommes, des citoyens, et que l'hôpital n'est qu'une parenthèse, c'est pas la vraie vie, donc c'est pas là où on va pouvoir travailler vraiment le rétablissement.
Avec cette santé mentale dans toute sa diversité, vous disiez tout à l'heure, Sabrina Palumbo, que vous intervenez, on va dire, sur différentes maladies auprès de différents patients, anorexie, boulimie, mais aussi bipolarité, schizophrénie. On vous donne à présent la parole. Cécile Glaser, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais en début d'émission, infirmière en psychiatrie père aidante, spécialisée sur la prise en charge précoce des patients souffrant de schizophrénie. Question aussi simple que directe, pourquoi cette spécialité sur la schizophrénie ?
Alors, cette spécialité sur la schizophrénie, elle est liée au fait que ça reste l'une des maladies les plus stigmatisées et les plus invalidantes pour les personnes qui en souffrent. Et l'importance de cette maladie, c'est de pouvoir la prendre en charge le plus tôt possible. Plus elle est prise en charge tôt, plus la capacité de rémission des patients est importante en évitant les rechutes et la diminution du pronostic par la suite.
Alors pour vous, justement, ce double rôle, cette double présentation, infirmière en psychiatrie et père aidante, comment se sépare votre temps, justement, aujourd'hui, entre les patients, entre les institutions ? Vous faites quoi comme travail, précisément ?
Alors, mon travail, c'est effectivement d'être infirmière en psychiatrie. Ça fait 20 ans que je travaille maintenant et il s'avère aussi que je suis porteuse d'un diagnostic psychiatrique. Donc, la notion de père aidant, donc Sabrina l'a très bien expliqué, hein, il y a à la fois la question de la mise en commun du récit par des personnes concernées par un même trouble, en tout cas par l'expérience de la psychiatrie, et il y a aussi la professionnalisation de ce métier. Moi, pour ma part, en tant que père aidante, je ne me suis pas du tout dans l'aspect professionnel, mais tout ce qui a accompagné mon rétablissement, qui a été essentiellement lié à la rencontre avec les personnes qui ont pu vivre la même expérience, et sortir de cet isolement. Alors, c'est assez paradoxal pour moi, puisque je travaille comme infirmière et en psychiatrie. Et en tant que patiente, j'ai été exactement confrontée aux mêmes questions, aux mêmes interrogations, au même isolement et à la même incompréhension par rapport à ce que je pouvais traverser.
Cécile Glaser, on entend justement cette prudence dans votre façon de présenter la maladie. Vous ne dites pas « je suis » avec le nom de la maladie. Vous ne dites pas « je suis concernée par ». Vous n'avez même pas cité votre maladie. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on n'est pas une maladie, déjà.
Non, mais en même temps, peut-être qu'en parler, c'est une manière de la faire sortir du bois et de dire, ben, finalement, je ne dirais pas, ce n'est pas un rhume, ce n'est pas ça la question. Oui. Ce n'est pas une banalisation complète, parce que c'est lourd à porter, c'est un cheminement, c'est un parcours. Mais on l'entend aussi avec le témoignage de Sabrina Palumbo. C'est quelque chose qui est constitutif aussi de sa vie, qui n'est pas extérieur à sa personnalité.
Alors, c'est effectivement pas du tout extérieur à sa personnalité. Vous me posez la question du positionnement. Ça, c'est quelque chose qui a été assez compliqué dans mon propre rétablissement, c'est-à-dire de savoir quelle est la part de la frontière, puisque c'est très courant en psychiatrie. Il y a une frontière. Soit on est d'un côté de la maladie, soit on est de l'autre côté.
Mais vous le dites, ce mot dans le livre, vous pouvez pas le dire à la radio ?
De la maladie dont je souffre ?
Oh, absolument.
Oui, alors je souffre d'un trouble bipolaire, voilà. Par rapport à ce sur quoi vous m'interrogez, c'est pas tellement le fait de ne pas vouloir en parler ou de pas vouloir le nommer, mais ça aussi, Sabrina l'a bien expliqué, c'est qu'à un moment donné, la question de la rencontre par des personnes concernées, elle est plus liée à l'expérience du soin et de son rétablissement vis-à-vis d'une maladie, des maladies psychiatriques qui sont encore très stigmatisées.
Tout à fait. On se résume pas à un diagnostic, professeur Lançon. C'est une question qu'on aborde à chaque émission sur la maladie mentale, la manière de désigner le patient. Bien sûr, ne pas définir quelqu'un au travers de sa maladie, d'ailleurs qu'il s'agisse de psychiatrie ou même d'une maladie chronique. Hein, on n'est pas diabétique, on n'est pas épileptique, on est atteint d'épilepsie. Comment est-ce que vous regardez les choses ? Est-ce que finalement, réussir à nommer, c'est déjà être sur une voie du rétablissement ?
Alors, ça dépend des gens. C'est-à-dire que, l'humanité, elle est diverse, mais elle n'est pas non plus multiple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, pour se rétablir, qu'on nomme ce dont ils souffrent. Nommer ce dont on souffre, ça a aussi une vertu, ça veut dire, ça permet de comprendre si on peut discuter avec les gens qui vous soignent ce qu'ils font. Dans le problème de la maladie mentale, souvent, on dit pas ce pourquoi on soigne les gens, ce dont ils souffrent. Ça veut dire en gros, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quels sont les traitements possibles, quels sont les traitements efficaces, quels sont les traitements recommandés. Voilà, c'est tout ça qu'on dit pas. Donc il y a une partie de la population, et c'est pas propre à la maladie mentale, il faut arrêter de stigmatiser la maladie mentale, qui a besoin, écoutez monsieur, vous souffrez d'un cancer, madame vous souffrez d'une dépression, en gros c'est comme ça que ça marche pour un certain nombre de personnes. Et puis à l'inverse, vous allez dans des centres pour des patients cancéreux, des gens ils viennent s'y faire soigner, et eux, ils ne souhaitent pas qu'on les nomme ou qu'on nomme ce pourquoi on les soigne, ça n'empêche pas qu'ils aient des soins. Donc, dans la maladie mentale, il y a un bruit qui est incroyable, c'est qu'on confond ce qui est de l'ordre de souffrir d'un trouble avec la relation avec le système de soins psychiatriques. Et le système de soins psychiatriques, il a un énorme problème, c'est celui qu'il peut priver les gens de liberté, les embastiller. Et ça fait un bruit considérable. Mais ce système, parce que là on parle depuis tout à l'heure de l'hôpital, la majorité des gens qui souffrent de troubles mentaux n'auront jamais contact avec l'hôpital, jamais.
Et c'est ce qu'on va avoir comme illustration avec un auditeur en ligne. Pour cela, on part tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Alors, ce témoignage, c'est le vôtre. Stéphane, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, en ligne de Yaoundé, vous avez décidé de témoigner au sujet de votre épouse. Expliquez-nous, Stéphane, de quoi souffre-t-elle et dans quelles circonstances est-ce que votre épouse a été diagnostiquée?
Voilà, donc mon épouse souffre de dépression. Elle a été diagnostiquée dépressive il y a 4 ans après l'accouchement de notre premier bébé. Donc, elle avait commencé à développer un certain nombre de comportements à la maison qui étaient devenus bizarres. Elle, à des moments, elle se levait de la maison, elle avait l'impression d'étouffer. Elle sortait rapidement pour aller chercher l'air à l'extérieur. Donc, c'était des comportements nouveaux, on ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Donc, on est reparti à l'hôpital pour qu'on essaie de nous expliquer cette situation. Et là-bas, donc, on nous a annoncé, en fait, que mon épouse, elle est dépressive.
Et aujourd'hui, il y a une prise en charge. Comment est soignée votre épouse, Stéphane?
Oui, au début, on avait commencé à suivre un psy. On allait rencontrer le psy, mais le psy s'était arrêté au fait que, justement, la dépression a commencé, et on a appelé ça dépression post-natale, c'est-à-dire qu'elle a commencé après justement, l'accouchement. Bon, c'est vrai qu'avant, elle ne faisait pas ses symptômes. Elle avait souvent été régulièrement malade, mais on ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait traîner une dépression. Donc, on nous a mis sur un traitement qu'on a suivi avec des médicaments tout simples. Il y avait quelques conversations avec des filles, justement. Mais quelques temps après, on a dû arrêter le traitement. Après, on l'a repris. Et après, on l'a encore arrêté parce qu'elle m'avait dit qu'elle se sentait bien et qu'elle ne voulait pas être dépendante des médicaments. Or, il y a quelques temps, justement, le 28 mars dernier, elle a fait une crise, une certaine rechute. Et ce matin, elle a fait réveiller en catastrophe, en criant, en disant que les gens la poursuivent, que les gens veulent l'arrêter et tout. Donc moi, qui étais déjà réveillé, j'ai vu la scène. Et j'ai dû la calmer, la rassurer et tout. Donc dans la précipitation, j'ai appelé un médecin qui nous a confié le numéro d'un psy, qui nous a prescrit un médicament pour la calmer. Et puis avant qu'on rencontre un médecin lui-même, on est allé rencontrer un spécialiste. Et depuis le 1er avril, on est sous ce traitement.
Alors, quand vous parlez, Stéphane, vous dites « on est sous traitement, on nous a soignés ». Ça veut dire qu'à chaque fois, vous accompagnez votre épouse?
Oui, oui. Je l'ai toujours souvent. Les premières fois, je ne l'accompagnais pas. Je la laissais pratiquement à la porte de l'hôpital. Mais pour cette fois-ci où j'ai vécu la crise moi-même vraiment en direct, j'ai décidé de l'accompagner désormais. Donc, depuis le 1er avril, c'est moi qui l'accompagne à l'hôpital.
Est-ce que ça se passe mieux depuis que vous l'accompagnez?
Oui, elle est plus rassurée. Elle est plus rassurée quand je l'accompagne parce que justement, le fait d'être souvent seule, elle pense qu'elle est en danger. Elle pense que quelque chose va lui arriver. Bon, comme elle avait toujours un rapport avec la mort, on va me tuer, quelque chose va mourir. Même quand on l'appelait au téléphone, elle ne décrochait plus le téléphone parce qu'elle se disait à tout moment qu'on va lui annoncer une nouvelle de deuil et tout ça. Donc, elle était vraiment dans une situation difficile. Mais depuis que je l'accompagne à l'hôpital, on nous a prescrit un nouveau traitement. Et puis, depuis un mois déjà, on va dire que ça commence à aller mieux quand même.
Ça commence à aller mieux. Est-ce que cette situation, elle provoque des commentaires, des jugements de l'extérieur? Vous avez entendu des choses au sujet de ce qui se passe à la maison?
Bon, pas entendu des choses, mais puisque la maladie l'a vraiment touchée à fond et qu'elle a perdu beaucoup de poids, il est arrivé effectivement que des gens qui ne l'ont pas vu depuis, quand ces gens-là l'ont rencontré dans la rue, lui ont fait des remarques déjà. « Tu as beaucoup maigri comme ça et tout ». Bon, c'est des choses qui la dérangent parce qu'aujourd'hui, elle a envie d'être dans un environnement où on l'encourage, on lui dit les choses positives. Et à chaque fois qu'on fait une remarque négative, elle a l'impression effectivement que le traitement qu'elle prend ne marche pas et que les gens ne remarquent pas ses efforts. Donc, elle a l'impression justement d'être seule. Et il faut à chaque fois que je la rassure, quand elle rentre à la maison pratiquement, parfois en larmes, il faut que je la rassure en lui disant « Non, mais tu es devenue belle, tu es toujours belle, tu reprends du poids et ainsi de suite. » Donc je suis un peu, comme on va dire, j'entendais dans l'émission tout à l'heure, un aidant, un père aidant à proprement parler. C'est-à-dire que j'essaie de suivre la maladie cette fois-ci avec elle pour essayer de lui apporter le soutien, un soutien maximum.
Vous l'êtes véritablement aidant, Stéphane. Est-ce que vous avez une question particulière à poser à l'un de nos invités, peut-être au professeur Christophe Lançon, qui est psychiatre et qui est à votre écoute?
Tout à fait. En écoutant tout à l'heure Sabrina Palombo, j'ai entendu dire dans ses propos qu'elle a complètement retrouvé la guérison. Alors, je voudrais savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'on guérisse totalement de la dépression?
Alors, bien sûr, il y a cette notion de rétablissement, l'espoir pour les patients, pour les familles qui souffrent, même si vous êtes très présent, même si vous continuez d'être fier et aux côtés de votre épouse. Stéphane, on comprend qu'on a envie d'en sortir de tout cela. Professeur Christophe Lançon, après ce témoignage de Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ah, c'est d'abord un très beau témoignage et qui montre que finalement, les aidants, ils sont... Stéphane, il a dit « nous ».
Exactement.
Donc, il est impossible dans toute maladie, et surtout dans les maladies mentales, de tenir à l'écart les personnes qui sont au quotidien aux côtés des personnes qui souffrent. Ça, c'était un grand problème de la psychiatrie. C'était de tenir à distance le conjoint, la mère, la fille, enfin toutes les personnes qui au quotidien sont aux côtés des patients. Et ça, c'est plus possible et c'est inadmissible. Deuxièmement, il faut renforcer donc le rôle des aidants et leur donner aussi de l'aide. Par exemple, dans la question de la dépression, Stéphane, il a appris des choses sur le tas alors qu'on aurait dû l'informer d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire on aurait dû l'informer sur les possibilités qui existent face à la dépression de traitement, le fait qu'il faut prendre le traitement un certain nombre de temps, enfin un certain nombre de choses qui sont des choses techniques assez simples, qui sont des messages indispensables à donner au patient et à son aidant, parce que sinon, effectivement, on arrête le traitement en rechute, on est surpris. Ben non, on n'est pas surpris, parce que les traitements, ça s'arrête pas n'importe comment. Il y a des moments où on peut les arrêter, ça s'appelle un plan d'arrêt de traitement, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Deuxième chose qu'il faut donner aux aidants, c'est, et ça Stéphane, il fait fort bien, il a très bien écrit, il dit, moi je suis là, je lui donne de l'espoir, je l'aide à aller de l'avant, donc il faut effectivement aider les aidants à sentir dans des positions où ils peuvent donner l'espoir et pas être épuisé. Et puis troisième chose, il faut effectivement lui permettre d'apprendre à gérer ces moments de stress extraordinairement graves. C'est incroyable de se retrouver dans une situation dans laquelle son épouse change, devient quelqu'un de méconnaissable, fait des choses incroyables. Et là encore, ça s'appelle le soutien et l'apprentissage qu'on peut donner aux aidants de comment on apprend à gérer ces situations. Et Stéphane, il a fait ça spontanément, il a géré fort bien spontanément. Mais le rôle des soignants, c'est aussi d'anticiper le fait que ça peut arriver, d'expliquer à Stéphane que ça peut arriver, que ça peut arriver pas brutalement, qu'il y a des signes avant-coureurs, qu'on est à sa disposition, qu'il y a tout un dispositif qui pourrait lui permettre d'éviter la catastrophe de retourner à l'hôpital.
Céline Glaser, j'imagine que vous êtes toujours à l'écoute. Vous aussi, quand vous intervenez, c'est aussi bien auprès des patients que de l'entourage. Une réaction à ce témoignage de Stéphane en ligne du Cameroun?
Alors, je rejoins tout à fait ce que dit le professeur Lançon. Hein. Stéphane est dans une position de père aidant, d'aidant essentiel vis-à-vis de son épouse et qu'effectivement, c'est encore, même s'il y a beaucoup d'espoir, encore très peu considéré par les équipes de soins en psychiatrie. Pendant longtemps et encore maintenant, on imaginait que l'entourage pouvait être pathogène vis-à-vis de l'évolution des personnes. Tout à l'heure, vous me parliez de la question de la schizophrénie et pourquoi plus particulièrement de la schizophrénie. Donc, comme je l'ai dit, c'est une maladie qui est encore très stigmatisée et très stigmatisante, autant pour l'entourage que pour la société, que pour la personne elle-même, hein, parce que dans la stigmatisation, il y a aussi l'auto-stigmatisation. Et de plus en plus se développent pour ce type de pathologie, la schizophrénie, des programmes qui permettent aux familles de comprendre, de savoir comment agir et surtout de savoir comment se préserver. Parce que le principe de l'aidance, enfin de la personne aidante de l'entourage, c'est qu'elle peut s'épuiser. Mmh. Elle peut s'épuiser face à l'incompréhension de la maladie, elle peut s'épuiser face au manque d'informations et elle peut s'épuiser parce que finalement, elle s'efface par rapport à ce que son proche peut vivre. Donc, ces programmes qui sont développés pour la schizophrénie, le plus connu, ça s'appelle Profamie. C'est un programme qui dure plusieurs mois, sur même une année. C'est des temps de rencontre dans un premier temps qui permet effectivement, comme le disait le professeur Lançon, de de savoir précisément qu'est-ce qui se manifeste chez la personne, qu'est-ce qui est de l'ordre du symptôme et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Aussi, comment l'anticiper, c'est-à-dire connaître les signes avant-coureurs. Et puis, rétablir en fait une communication entre le proche et son entourage. Parce que c'est souvent cette incompréhension qui vient faire irruption à un moment donné et qui finalement délite complètement les liens et c'est plutôt le délitement des liens qui est un facteur d'aggravation de la maladie qu'au contraire une trop grande proximité entre les aidants et les personnes concernées par un trouble psychique. Donc on l'entend bien dans le témoignage de Stéphane, donc effectivement lui il a un peu ramé tout seul aussi, mais il est resté très présent et malgré tout dans ce qu'on entend, il a été considéré dans les équipes qui ont pris en charge son épouse et ça je trouve ça
très important. Oui. Stéphane, est-ce qu'il y a certains moments où vous vous sentez épuisé de tout ça, où vous dites vraiment c'est trop fatigant?
Oui, surtout quand ça devient long, parce que là on est à 4 ans, c'est vrai que 4 ans c'est, on va dire que c'est peu pour certains et long pour moi. Parce que, évidemment, quand ça a commencé, je m'étais dit que c'était une maladie toute simple et banale. Il fallait un petit accompagnement seulement, notamment en termes de médicaments.
Mais ça dure. Et vous avez quelqu'un pour vous aider, quelqu'un à qui en parler? Vous avez pensé aussi à ça, à vous, parce qu'on sent que vous êtes très généreux avec votre famille, avec votre femme. Vous êtes à l'écoute, vous êtes bien là. Vous n'avez pas pris, comme certains auraient eu envie de le faire, la petite valise et hop, je m'en vais de la maison. Non, vous êtes là. Vous avez quelqu'un pour vous aider?
Oui, tout à fait. J'ai quand même des proches qui comprennent la situation voilà, et qui apportent leur soutien. Tout à fait.
Et ça, c'est essentiel. En tout cas, bravo pour tout ça et merci infiniment pour ce témoignage. Cécile Glaser, une dernière question, justement. Je demandais tout à l'heure à Sabrina Palumbo si le domaine d'intervention devait concerner le type de trouble vécu par l'intervenant, le lien entre le parcours personnel et le parcours au service des autres. Quel est votre point de vue sur cette question ?
Je pense qu'il y a deux temps. Je pense qu'effectivement, il y a une notion de partage qui peut être liée au diagnostic, qui peut être important. Mais moi, je reste persuadée que c'est l'expérience de la psychiatrie qui est le plus essentiel à partager. Et à ce titre, finalement, il n'y a pas besoin de souffrir de la même maladie pour comprendre celui qu'on accompagne.
On est dans une famille de santé, en quelque sorte.
De santé, merci de dire ce mot. Oui.
J'ai pas dit de maladie, hein. J'ai dit de santé.
Voilà, plutôt qu'une famille de maladie, mais on est dans une famille effectivement de santé pour affronter ce qui est le plus stigmatisant finalement dans ce que représente la psychiatrie, ce qu'elle peut susciter comme angoisse, interrogation, crainte de la part à la fois de l'entourage et de la personne elle-même. Hein. Il ne faut pas mésestimer que quand on est hospitalisé en psychiatrie, on peut avoir peur de soi-même aussi.
Mmh. Et il faudrait souligner aussi par rapport au témoignage tout à l'heure de Stéphane, on ne l'a pas souligné justement, c'est qu'en plus les perceptions sociales et culturelles de la maladie mentale diffèrent vraiment d'un continent à l'autre. Et si on parle du continent africain, il y a vraiment un nombre de tabous incroyables sur la prise en charge en santé mentale. On vous remercie infiniment, Cécile Glaser, d'avoir participé à notre émission. On aborde la dernière partie de cet échange. Peut-être un petit retour en arrière, professeur Lançon. L'implication des patients dans ce secteur de la santé, elle a une histoire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à un tournant, puisqu'on disait tout à l'heure, le rétablissement, il entre doucement dans la psychiatrie, ou est-ce que les résistances sont toujours bel et bien présentes?
La balance, elle penche du côté du changement, puisque finalement les patients, les familles commencent à s'emparer de la question du rétablissement pour demander plus d'espoir et plus de soins de qualité. Après, l'univers psychiatrique en général, il est encore assez résistant en France, oui.
Sabrina Palumbo, au sujet de l'intégration ou de l'inverse du rejet médical, quel est votre point de vue? Vous avez l'impression que vous vous sentez généralement bienvenue, ou si un patient évoque le lien avec un intervenant en père aidant, c'est plutôt bienvenue, ou c'est encore, vous êtes pris encore un peu pour une sorte d'animateur socio-culturel bizarre?
Alors, en ce qui me concerne, je m'estime plutôt bien lotie puisque je fais partie du Un chez soi d'abord Paris, et le Un chez soi, qui est maintenant présent dans une vingtaine de villes en France, a fait partie des premières structures à faire appel à des médiateurs. Mmh. Donc ils ont la culture rétablissement et je me sens pleinement intégrée à l'équipe. Mmh. Des retours que j'ai de mes collègues pères aidants, ça peut être plus compliqué, notamment quand on travaille en intra et il y a encore des freins. C'est vrai qu'on peut nous regarder encore avec une certaine appréhension, voir des professionnels qui se demandent si on va pas leur piquer un petit peu leur boulot. Mmh. On a travaillé, je vais faire la promotion d'une chaîne YouTube que j'ai co-créée qui s'appelle La Psychiatrie de Demain, où on a évoqué lors d'un dernier webinaire justement la question de l'expertise et des savoirs expérientiels et de la pair aidance, où on a évoqué ces freins, et c'était très intéressant d'entendre aussi le discours de soignants et comment ils peuvent préparer l'intégration d'un pair aidant dans les équipes. Donc ça se prépare en amont, ça se prépare avec une direction, ça se prépare avec une équipe, ça se fait pas n'importe comment. Il faut déjà qu'on sache de quoi on parle, quel va être le rôle du pair aidant dans l'équipe, et ça peut, en tout cas, ça fonctionne, et ça montre, y a vraiment des résultats à l'appui qui montrent tout ce que peut apporter un pair aidant dans les équipes en termes ne serait-ce que de la diminution du nombre d'hospitalisations ou de la durée des hospitalisations. Ça, on a des chiffres à l'appui.
Et justement, on parle depuis le début de cette émission de la santé mentale. Est-ce que, selon vous, Sabrina Palumbo, ce rôle, la définition de cette fonction, elle est spécifique quand on parle de cette santé mentale par rapport, par exemple, à une affection physique, une maladie chronique, un handicap ?
Non, je pense qu'on
on est sur le même terrain.
Je ne ferai pas de distinction. C'est voilà, un trouble psy. On en est. Il y a encore beaucoup de tabous, mais effectivement, il serait bien qu'on parle de sa santé physique de la même manière qu'on parle de sa santé psychique. Faire tomber certains tabous. On va voir un psy pas que quand ça va mal. On va voilà pouvoir libérer la parole autour de ça. Et se dire qu'on fait de la pair aidance, que ce soit dans les soins somatiques comme dans les soins psychiques.
On va aussi se faire du bien. Les familles, l'entourage face à la maladie mentale, je voudrais qu'on y revienne en toute conclusion pour la fin de cette émission. Professeur Lançon, on a parlé du regard, du jugement. Comment améliorer, comment en finir avec cette persistance de la culpabilité des familles ?
Ah ben, il faut leur dire une bonne fois pour toutes qu'ils ne sont pas responsables de la maladie de leur enfant, pas plus en santé mentale que dans un cancer ou d'un trouble cardiovasculaire. C'est toujours pareil, il faut qu'ils voient dans le regard des médecins et des structures de soins qui les accueillent de la bienveillance et surtout pas l'idée qu'ils soient responsables de quoi que ce soit.
Et cette bienveillance sera le mot de la fin. Cultiver l'espoir, on vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Sabrina Palumbo, professeur Lançon. Pour aller plus loin, donc, ce livre qui est donc publié aux éditions Frison Roche, Les voies du rétablissement, qui peut apporter pas mal de pistes aux patients, à leur entourage et d'ailleurs également aux soignants. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurence Snow. À demain, d'ici là, portez-vous bien et évidemment, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Autour de la question.